Radio Octopi. Écho des développements.
Chers auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes de développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable est diffusé sur Radio Capi. Quelle est l'importance de l'agroforesterie en milieu rural? C'est à cette question principale que nous allons tenter de répondre au cours de ce magazine Éco de développement. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce numéro. Jean-Marc Matoua qui coordonne et supervise ce magazine et Tarsis Mukendi s'occupe de la mise en onde de ce numéro d'Éco de développement. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce magazine dédié aux questions de l'environnement et développement durable de Radio Capi.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Capi et au canal 573 pour Radio Capi Enfant. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Pour réduire la forte pression exercée sur les écosystèmes forestiers qui environnent les agglomérations de la RDC, le gouvernement congolais initie, depuis les années 1990, des projets agroforestiers dans certaines provinces exposées à une forte demande des produits agricoles et en charbon de bois. Les zones périurbaines de Kinshasa, Lubumbashi et Goma ont bénéficié des projets d'agroforesterie depuis plus de 10 ans. Quelle est l'importance de l'agroforesterie en milieu rural? Tentative de réponse au cours de ce numéro des Codes de développement. Donnons cette fois-ci la parole à Monsieur Bertin Bouya qui l'habille. Il est spécialiste en sciences de l'environnement. Monsieur Bertin Bouya a mis en place, dans le cadre de son projet de recherche et de fin d'études, un programme d'agroforesterie avec les bambous associés à l'élevage et l'agriculture dans les zones dégradées du site de l'Unikine.
Les bambous ont été reproduits ici. Nous les avons plantés sur différentes murailles. Nous avons appelé les projets murailles vertes en bambou de Chine. Nous avons fait des murailles sur différents endroits où on a planté les murailles dans le sens contraire du bassin versant pour que après 3 ans que ces bambous soient stabilisent les sols au fait et luttent contre les érosions. Nous les avons plantés sur 6 sites. Les premiers sites est derrière les centres hospitaliers du Moamba. Les deuxième et troisième, c'est en face de la morgue des cliniques universitaires et jusque du côté de l'Eraïft. Troisième site de la Miraille, c'est entre l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin, les ronds-points qu'on appelle Sentiment, les Hommes 150 et Hommes 80. La quatrième Miraille, c'est en face de Pistop Restowold. C'est un espace qui guide du rond-point Sentiment et entre les Hommes 10 et Hommes 20. Et sixième Miraille, c'est derrière la faculté des lettres. Il y a une autre Miraille qui part. Donc, ce sont des bambous qui ont été plantés sur pratiquement 6 hectares.
Bambou Miraille Verte est un projet de la Faculté des sciences de l'Université de Kinshasa, mis en place dans le but de lutter contre les têtes d'érosion qui menacent les sites de l'Unikine et dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, ajoute Bertin Bouya. Nous rappelons qu'il est étudiant finaliste à la Faculté des sciences de l'Université de Kinshasa.
Il s'agit du projet Miraille Verte en bambou de Chine. C'est un projet de l'Unikine qui lutte contre les érosions et les changements climatiques. Un projet qui a été financé par les fonds forestiers nationaux. Et ici, précisément, nous sommes dans la pépinière qu'on appelle la bambouseraie de l'Unikine.
Mais d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans ces projets de valorisation des sols dégradés par les biais des bambous?
L'idée, d'abord, c'est par rapport aux problèmes qui se posent sur place. L'Unikine compte plus de 70 têtes d'érosion. Il y a une dégradation du sol remarquable qui s'est fait du fait que il y a eu des routes qui ont été créées par des personnes. Il y a eu les maraîchages qui n'ont pas été contrôlés. Il y a aussi des problèmes de ruissellement qui sont non négligeables, qui ont causé d'érosion. Et nous nous sommes dit, en tant qu'environnementaliste, parce que je suis du département des sciences et gestion de l'environnement ici à l'Unikine, nous avons pensé à une solution basée sur la nature qui va restaurer ces sols, mais en dehors de restaurer les sols, comme je l'ai dit à l'introduction, ces projets vont aussi lutter contre les changements climatiques parce que le bambou, ses racines stabilisent les sols, mais sa partie supérieure, on parle du chaume, séquestre les CO2 et lutte contre les changements climatiques. D'ailleurs, les statistiques montrent que le bambou séquestrerait 30 fois plus de CO2 que d'autres arbres normaux à cause de sa capacité à développer la biomasse assez rapidement.
Oui, nous allons développer cette dimension des lutte contre les changements climatiques dans le corps de notre entretien. D'entrée de jeu, est-ce que le bambou a une place dans l'agroforesterie? Est-ce qu'aujourd'hui, on commence d'abord par les concepts, qu'est-ce que tu entends par l'agroforesterie? Et est-ce que le bambou a une place importante dans l'agroforesterie, ici en RDC?
En commençant par les termes agroforesterie, il y a déjà l'agro qui fait allusion à l'agriculture et foresterie qui fait allusion à la forêt. Donc ce sont des formations forestières artificielles mélangées aux cultures. Ces cultures, ça peut être pérennes ou vivrières, maraîchères, mais on peut aussi le mélanger avec du bétail qu'on élève. Et donc c'est ce que je comprends de l'agroforesterie. Et le bambou n'a pas une place dans ça, mais une très grande place.
Les bambous font partie intégrante.
Justement, des systèmes agroforestiers. Parce que simplement, ça n'a pas été connu. Et je crois que dans cette émission, si vous m'accordez le temps, je vais vous expliquer pourquoi les bambous ont une très grande place dans l'agroforesterie.
Les racines des bambous sont envahissantes ou pas? Bertin Bouya, spécialiste en sciences de l'environnement, nous donne des précisions.
Il y a toujours une notion qui fait peur aux gens, la notion d'envahissement de bambous. Ils disent les bambous sont envahissants, etc. Non. Il existe deux types de bambous. Il y a les bambous qu'on appelle les bambous traçants. C'est les bambous du climat tempéré. Donc quand vous les plantez, s'il peut aller jusqu'à Rompoingaba, on peut vraiment utiliser ces capacités de bambou à changer notre quotidien en fait.
Pour réduire la pression exercée par les communautés locales vivant à proximité des aires protégées, il sera intéressant de recourir à la culture des bambous comme une source importante de l'énergie des cuissons. Pour les ménages, je pense, Bertin Bouya, nous rappelons qu'il est spécialiste en sciences de l'environnement.
Oui, nous savons que, Monsieur Bertin, au fait, parfois il y a des conflits engagés entre les communautés qui vivent autour des aires protégées. Lorsque les communautés vont, par exemple, extraire les bois d'échauffe dans les limites, au-delà des limites autorisées, il y a parfois des conflits qui sont ouverts avec les gestionnaires des aires protégées, les éco-gardes notamment. Est-ce qu'on peut amener ce genre de projets? Des bambous afin de réduire la pression, la forte demande des communautés locales sur les ressources bois, énergie, des aires protégées.
Mais justement, je vous livre un petit secret. J'avais pensé à ça pour Bombolumene. Bombolumene, c'est pas loin de Kinshasa ici. La première des choses, on peut faire une haie, une clôture de l'air protégé. On fait une limitation avec le bambou parce que là où les bambous se développent et créent des touffes, c'est d'abord, on ne peut pas passer. Donc c'est une limitation, on dit, on met une limite ici, mais cette limitation sert en même temps pour le bois énergie de la population. Donc si dans le bord des aires protégées, on faisait des haies de bambou de 5 mètres de largeur, et puis on continuait avec, ça ne coûte pas grand-chose, hein, pour planter du bambou, nous avons la technologie pour multiplier le bambou à grande échelle, le planter dans les aires protégées, c'est une idée géniale, je peux dire géniale, qui va donner du bois de chauffe. Si je dois l'appeler ainsi, parce que le bambou, ce n'est pas un arbre, mais ça donne quand même un produit semblable au bois d'échauffe. Donc, ça va réduire la pression sur la forêt qui constitue l'habitat pour la biodiversité qu'on protège dans les aires protégées. Et par conséquent, la population ne va pas se sentir lésée. Parce que moi, en tant qu'environnementaliste, je les deviens déjà, je suis finaliste, on ne vient pas faire la protection tout en empêchant le développement des communautés locales.
Ou les communautés à la jouissance.
À la jouissance, oui, des ressources. Pourtant, on peut donner des ressources alternatives à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la population n'a pas pour ambition de détruire.
Non.
La population doit survivre.
Oui.
Mais si on leur propose un moyen de survie, alors elle s'adapte. Et le moyen de survie, par excellence, moi je peux dire que c'est les bambous. Parce que le bambou, après avoir planté le bambou, vous l'exploitez pendant 100 ans.
Okay.
Ça, c'est la durée de l'exploitation d'une bambouseraie. La bambouserie, c'est la plantation artificielle de bambou, alors que la bambousée, ce sont des différences. Ce sont des formations naturelles de bambou dans la nature, en fait. Et donc, avec le bambou, on peut justement atténuer les conflits qu'il y a entre les conservateurs des aires protégées, donc les éco-gardes, et les communautés locales.
Oui, mais
et c'est pratique.
Est-ce que c'est aussi un secteur d'avenir pour les jeunes, surtout la jeunesse congolaise, M. Bertin? Les gens qui nous suivent en milieu reculé, est-ce qu'ils peuvent se constituer un réseau pour se lancer dans des types de projets? Parce que là, on est dans votre pépinière, le site il est clôturé par des bambous et c'est beau à voir.
En tout cas, c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur d'avenir. En premier, d'abord pour les crédits carbone. Je viens de les frôler dans mon introduction. Le bambou séquestre 30 fois plus de CO2 que d'autres arbres. Donc, une plantation, une bambouseraie, une plantation de autant d'hectares de des forêts de bambou et celle d'acacia, la forêt de bambou a un rendement en séquestration de carbone plus élevé que la forêt d'acacia. Et donc, ça s'est prouvé par l'Organisation internationale de bambou et des rotins, l'UNBAR. Ce sont des recherches qui existent. Et donc, si les jeunes se mettent ensemble, ils forment de bambouseraies, peuvent bénéficier du crédit carbone, d'autant plus que notre gouvernement est en train de se battre pour viabiliser ces marchés carbone. L'autre aspect, ce sont les différents avantages liés au bambou. Les bambous, se développant, je suppose que tout type de sol, peut devenir un fourrage pour le bétail. J'ai ma porcherie, j'ai mon élevage de chèvres, j'ai quelques bœufs. Je plante les bambous tout autour et les bœufs, ils broutent ça, ces bambous-là.
Ils vont pas aller au-delà des
limites. Non, pas au-delà des limites.
Et puis, du coup, bêtes est réduite.
Oui, justement, réduction et divagation de bêtes. Et puis, augmentation de la fertilité parce que l'air bouse serait utilisé dans la fertilisation.
Ouais.
Et donc, on améliore les sols. Et puis, on fait une bonne infiltration de l'eau dans les sols. Cet espace-là est bien aéré. Et puis, on améliore les climats. Ça, ce sont des avantages environnementaux. Mais sur le plan financier, il y en a aussi. On peut faire du charbon de bois avec du bambou. Je l'ai dit ici tantôt. On peut faire du bois de chauffe avec du bambou. On peut faire de meubles. Vous êtes assis sur... Nous sommes assis avec vous sur les bancs de bambou.
Ouais.
Vous voyez, on peut le faire dans les espaces publics.
Ouais.
Là, on les décore bien, on met du vernis. Les gens s'asseyent très bien.
Exactement.
Est-ce qu'on est obligé d'importer les métaux? Alors que, ça c'est une information que je vous ai quand même cachée, alors qu'à diamètre égal, le bambou mature peut être utilisé pour d'autres usages là où on devait utiliser l'acier. Vous avez entendu parler de ça?
Non.
Le bambou, il est résistant. Résistant à la compression, à la compactation. Le bambou, c'est une espèce de développement durable. Ça dépend de l'angle auquel on est en train d'apporter ces bambous. On peut, s'il faut descendre avec des usages un peu plus simples, vous constituez une petite entreprise de production de cuir dans ça ne coûte pas grand-chose. Les bambous, c'est mieux adapté.
Oui.
Et donc, il y a beaucoup d'avantages qu'on peut faire avec du bambou. Et moi, je ne lâche pas ce secteur.
Quels sont les avantages de l'agroforesterie? L'agroforesterie contribue à la lutte contre les érosions. Elle contribue aussi à la création d'un microclimat favorisant un très bon rendement des cultures selon les spécialistes. Ajoute le professeur Michel Mbouma, nous rappelons qu'il est spécialiste en agroforesterie.
L'État peut rendre des terres disponibles. On en trouve en abondance.
Dégradé.
Hein. Les savants ne sont par-ci par-là abandonnés. Hein. Les gens, quand vous essayez avec les cultures, ça ne marche pas, ils abandonnent. Maintenant, le prix aussi de vente, c'est là maintenant très bas. Alors, c'est là où on peut promouvoir les gens, hein. Donc pousser les gens à entreprendre l'agroforesterie, hein, dans des terrains dégradés. Et moi, personnellement, j'ai compris cela. Ce sont, en fait, ces initiatives qui me poussent, hein, vers les terrains dégradés. Les terrains dégradés coûtent moins cher en RDC. Les terrains en pente, érosifs. Donc vous êtes, quand vous allez négocier avec quelqu'un, il vous dit non, mais si vous voulez dans les savanes, c'est autant. Mais là où il y a des arbres, il essaie d'augmenter les prix. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment une contrainte pour nous. Hein. C'est question seulement de que l'État puisse prendre donc ses responsabilités pour vulgariser l'agroforesterie selon les besoins socio-économiques et environnementaux des populations. On ne le fait pas seulement pour le plaisir, parce que quelqu'un a fait ça avec la casse, moi tu dois suivre. Non, je peux seulement planter les arbres. Un arbre fruitier coûte combien? Ici, c'est moi. Un arbre, donc il y a des fruits, lui-même vient cueillir, hein, mais ça peut aussi aller au-delà. Les papayers aussi, hein, au lieu d'aller même dans les cultures, c'est pas le manioc, les papayers, c'est aussi une activité qui apporte beaucoup de revenus aussi. Hein.
Okay.
J'ai question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, comme je disais, c'est vous-même qui faites les choix. C'est vous-même qui savez les besoins de la population. Quand je plante ceci, les gens peuvent venir maintenant acheter. Mais sinon, vous serez aussi découragés. Et mais je pense que tous ceux-là qui sont déjà dans l'agroforesterie ne se plaignent pas.
Okay.
Essayez maintenant d'aller sur le terrain, poser des questions aux maraîchers ou encore, lorsqu'il y a la présence d'arbres là-bas, ils disent que bon, il y a l'ombrage, il y a beaucoup de... Et même, ils disent aussi que non, pendant les périodes de soudure là, Hein, je n'ai pas encore. Mais quand les arbres donnent des fruits, je peux aussi vendre.
L'agroforesterie est également une technique agro-pastorale qui contribue grandement à la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de l'adaptation et de la résilience des communautés locales des effets induits par les changements climatiques, conclut le professeur Michel Mouma. Nous rappelons qu'il est spécialiste en agroforesterie.
La séquestration du carbone. Lorsque vous faites bien votre course, c'est-à-dire que les liens pérennes sont comment obligatoires hein, dans un champ, comment un terrain, comment agroforestier. Lorsque c'est bien pratiqué, les arbres peuvent séquestrer, capter hein, les COD hein, qui est dans l'atmosphère hein, et qui peut nuire aussi, hein, puisque c'est un gaz à effet de serre. En dehors de ça, l'agroforesterie, donc c'est le plan maintenant. L'arbre là qu'on va planter ou encore les espèces qu'on va planter, ça peut aussi réduire les érosions. Lutter contre les érosions hydriques puis éoliennes. Hein. Et ça peut aussi donc conserver aussi la biodiversité. Ça peut aussi attirer d'autres espèces. Ça peut aussi fertiliser le milieu aussi. Hein. Donc sur le plan écologique, vous voyez que l'agroforesterie est très attrayante. Donc, l'agroforesterie, quand vous la faites bien, en tout cas, il y a beaucoup d'investisseurs qui peuvent aussi venir sur vous si vous avez un grand espace. Hein. Même pour les reboisements, les reboisements ne disent pas forcément les arbres non fruitiers. Même les arbres aussi fruitiers, on peut valoriser. Je pense que l'État connaît hein, nos structures. L'État peut rendre visible ces termes agroforesterie, tout en disant aux gens que ce n'est pas une pratique nouvelle, c'est une pratique comment ancienne que les gens peuvent pratiquer, peuvent mettre en vue facilement, puisqu'ils le font déjà. Maintenant, comme il y a des terrains disponibles, je pense seulement à la ville de Kinshasa, quand nous allons vers les plateaux batiqués, voilà comment les terrains qui ont des savanes sont abandonnés. Et si nous allons aussi ici à Kasangoul, beaucoup de terrains abandonnés. Partout dans notre pays, il y a beaucoup de savanes, il y a beaucoup de terrains dégradés qu'on peut revaloriser. Il y a même des forêts aussi dégradées qu'on peut aussi valoriser aussi à travers l'agroforesterie.
Radio au peuple. Écho des développements.
C'est par ici que nous clôturons ce magazine Écho de développement consacré à l'importance de l'agroforesterie en milieu rural que vous a présenté Tati Mapoukou sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Tarsis Tchibangou était à la prise des sons. Les rendez-vous est pris pour le jeudi prochain. En attendant, portez-vous bien et bonne condition d'écoute des programmes de Radio Capi.